Pauline Pucciano, Paradict. 20 septembre 2071. Gouvernance française, ce que cela va vraiment changer. Des images inédites de l'exoplanète 17. Un paradis à portée de main. Bombe froide, la machine spectaculaire qui agit localement sur le climat, suscite des polémiques. Elsie ne perdait jamais tout à fait conscience d'être une jolie femme, même lorsqu'elle était concentrée, comme maintenant, sur des questions ardues, même lorsqu'elle s'adressait à un enfant ou à un vieillard. C'était une manière d'être. Non qu'elle en joie, d'ailleurs, ou qu'elle fût particulièrement séductrice. Il s'agissait plutôt d'une sorte de dédoublement, de regard extérieur qu'elle ne pouvait jamais s'empêcher de porter sur elle-même. Un miroir mental, dans lequel elle se regardait vivre sans cesse, à chaque instant. Un jour, son psychanalyste lui avait demandé avec les yeux de qui elle se regardait. Cette question, qui avait marqué la fin d'une séance particulièrement houleuse, l'avait perturbée. Elle avait fini par conclure qu'elle se voyait sans doute avec les yeux de son père, mais elle avait refusé de l'avouer au psychanalyste. Ainsi donc, sa conscience, en ce moment, se partageait en plusieurs niveaux. À un niveau presque reptilien, Elsie avait conscience d'être une jolie jeune femme vêtue de rouge, qui croisait ses jambes avec élégance et répandait un parfum luxueux. À un niveau plus superficiel, elle prêtait une oreille attentive aux discours qui lui étaient tenus, et elle essayait de renvoyer la balle avec adresse. À un niveau intermédiaire, elle se gorgeait de la satisfaction d'être arrivée là, à ce point précis, en face de cet interlocuteur particulier, dans cette situation si inattendue. Elle échangeait à bâton rompu avec Terence Oxford sur les modalités de sa prise de fonction. Et cette conscience la remplissait d'une assurance merveilleuse, comme si un pouvoir nouveau avait été injecté dans ses veines. Le décor vétuste de la World Administration, bureau à la climatisation douteuse, parois aveugles recouvertes de moisissures, invasion de grenouilles dans les toilettes, était relégué dans un arrière-plan brumeux. En face d'elle, le fonctionnaire vieillissant déroulait pour elle les trésors de son intelligence, de son expérience, de sa culture. Sa conversation était un palais aux mille pièces, dans lequel on se perdait avec volupté et où il y avait toujours un objet à découvrir. Sa bienveillance, le fait qu'il affecte de se mettre avec elle sur un pied d'égalité, tout en lui caressait délicieusement son orgueil. « À partir de maintenant, lui dit-il de sa voix grave, qu'il savait moduler comme personne et qui donnait une sorte de profondeur à ses propos même les plus banals, vous allez devoir avoir un avis sur tout, une vision sur tout. C'est le propre des politiques. Au poste que vous allez occuper, vous ne pouvez pas vous permettre une hésitation ou un flottement. Une vision qui m'est propre ou bien la vision du parti ? » Terence sourit. L'idéal est de faire converger les deux. Prenons un exemple. Quelle est votre vision du paradict ? Je n'ai jamais compris cet engouement pour le virtuel. C'est une drogue pour moi, qui permet juste aux gens de rêver un peu en attendant de disparaître. C'est joliment dit, dit Terence d'un air rêveur. Il avait cette capacité de vous faire sentir intelligent, et Elsie n'échappait pas à ce pouvoir hypnotique. Mais même si vous avez sans doute raison, n'oubliez pas que le tiers ou le quart de vos électeurs potentiels sont adeptes du paradict. Vous ne pouvez pas leur parler ainsi. « Le paradict est un univers merveilleux, se reprit Elsie, et nous devons consacrer toute notre énergie à faire advenir sa beauté dans le monde réel. Toute la créativité, toutes les initiatives solidaires innovantes qui voient le jour dans le paradict doivent être reversées ici et maintenant pour l'avenir de notre planète. » Terence secoua la tête, conquis. « Vous apprenez vite, dit-il. Vous ferez une merveilleuse responsable nationale. « Vous croyez ? » demanda-t-elle, soudain anxieuse. À son niveau reptilien, la jeune femme était en train de jouer l'ingénue, de façon subtile. Terence se leva. Son visage un peu marqué avait la beauté des roches érodées, et son regard clair, vivant, l'animait tout entier. « En premier lieu, je vous recommande d'observer et de prendre votre temps pour déployer vos ailes. C'est un poste où on va vous regarder, vous écouter et vous attendre au tournant sans cesse. La prudence doit guider toutes vos décisions. Le chemin n'est pas difficile, mais il est à une hauteur vertigineuse. Vous ne devez pas trébucher, ni avoir le vertige. Vous ne serez pas trop loin, j'espère, dans les premiers temps. Je vous suivrai comme votre ombre. » Une question tracassait Elsie depuis sa nomination. Elle n'osait pas la lui poser de but en blanc. Son parcours sans faute dans le parti du développement lui avait appris à ne jamais prendre les problèmes de front. Il fallait gagner du temps, glaner des informations, reporter au lendemain les décisions. Une simple impulsion pouvait être une ennemie autrement plus dangereuse qu'un rival ou un adversaire. « Puis-je vous poser une question ?» demanda-t-elle. « Je suis là pour ça. » « Je sais que ma candidature n'était pas une évidence pour tout le monde. » Terence sourit à nouveau. « Pourquoi ? Parce que vous êtes jeune, belle, brillante et prometteuse ?»« Il y en a d'autres, » répartit prudemment Elsie. « Nous avons hésité entre vous et Saphir, mais vous l'avez emporté. Votre charisme paraît plus universel. » « C'est donc cela, » pensa Elsie, un peu déçue. « Une question de charisme. » Elle esquissa cependant un sourire reconnaissant et dit « Je crois que je vais me plonger dans les dossiers pour le moment. Vous restez à côté si j'ai besoin de vous ?» Terence fit une révérence courtoise et s'éclipsa. Elsie ferma la porte et resta un moment en arrêt. Le bureau était privatif et un peu plus spacieux que celui qu'elle avait occupé jusqu'à présent. Le climatiseur bourdonnait de manière irrégulière et égouttait sur le carrelage, mais il paraissait fonctionner, ce qui était un véritable luxe. Des tableaux numériques décoraient les murs. Selon la coutume du Parti du Développement, il s'agissait presque exclusivement de paysages peints dans les siècles passés. Des vertes vallées, des forêts enneigées, des jardins endormis, des bords de mer sauvages constituaient partout l'horizon du parti. La notion de développement durable avait émergé au début du XXIe siècle et évolué progressivement jusqu'à maintenant. La préservation de l'espèce humaine et de sa biosphère était le fer de lance de ce parti, dont les principaux dossiers s'accumulaient sur l'ordinateur du bureau. Retraitement des déchets nucléaires, fermeture progressive des centrales extra-européennes, reboisement, propagande en faveur du végétarisme et taxation de l'élevage bovin, nettoyage des océans, incitation à l'éco-responsabilité des entreprises. La World Administration, qui n'était âgée que d'une trentaine d'années, en était encore à des balbutiements de fonctionnement, des déclarations d'intention, des recherches de financement, et son mouvement était sans cesse entravé par la lourdeur de son immense machine. En théorie, la WA avait maintenant autorité sur les multinationales, et il était désormais possible de penser un aménagement global du territoire planétaire. Mais les partis, soutenus par des lobbies puissants, se tiraient dans les pattes, et les changements trop fréquents de gouvernement empêchaient une nouvelle fois une action à long terme. La température continuait à monter. Les espèces continuaient à disparaître. L'humanité continuait à danser au bord du précipice. Elsie croyait sincèrement au manifeste de son parti. La cause de la planète était la seule qu'il lui semblait devoir défendre, et lorsqu'elle avait eu, au sortir de ses études en sciences politiques, le choix d'un parti de gouvernement pour faire carrière, elle n'avait pas hésité. Le parti des identités ne l'avait jamais tenté. Héritier d'un improbable mariage entre les populismes nationalistes et les communautarismes divers, le parti des identités refusait toute notion d'universalisme et se présentait comme un rempart culturel contre la mondialisation. Le parti de l'innovation, qui faisait du progrès technologique le seul espoir de l'humanité, lui était toujours apparu comme un parti d'illuminés, aux dogmes presque religieux. Le transhumanisme, la conquête spatiale, les recherches sur le refroidissement artificiel du climat qui piétinait depuis 40 ans en étaient les principaux piliers. Le prochain gouvernement global, qui changeait tous les 4 ans, serait français. Être parachuté à la tête du Parti du Développement, c'était donc très raisonnablement jouir de l'investiture pour les élections globales où elle serait la tête d'affiche de l'un des 3 partis de gouvernement. Potentiellement donc, elle pouvait devenir la prochaine secrétaire générale de la WA. C'était bien une hauteur vertigineuse, comme le disait Terence, et elle se demanda fugitivement si elle serait capable de supporter la pression de cette stratosphère. Pourquoi Terence Oxford avait-il renoncé à ce poste quelques mois avant l'investiture du parti? Elsie posa la question dans un coin de sa tête. C'était pourtant une question béante, agaçante comme une démangeaison. Elle devinait derrière sa réponse mystérieuse un monde de coulisses et de stratégies qui lui échappait partiellement. Bien sûr, elle n'était pas assez naïve pour croire que ce poste lui était offert sur la seule base de son mérite personnel, et la réponse de Terence ne l'avait pas plus convaincue. Son « charisme universel », comme il le disait, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Elle avait évidemment les qualités requises. Elle savait parler, elle présentait bien, elle avait suffisamment de loyauté et d'intelligence pour occuper ce poste, mais ils étaient légion dans ce cas. Et ce n'était pas cela qui avait emporté la décision. Terence l'avait surprise en lui annonçant qu'elle avait été en rivalité avec Saphir, un collègue d'une soixantaine d'années, connu pour son dévouement extrême au parti. S'ils avaient pensé à lui, cela signifiait qu'ils avaient besoin d'une personne dévouée, ce qui était surprenant, car le profil d'un candidat aux élections globales est plutôt celui d'une personne ambitieuse, solide et indépendante. Saphir était un collaborateur précieux, mais il était un homme de l'ombre, un brillant exécutant. Se pouvait-il que ce soit là ce qu'ils aient recherché? Était-ce ainsi qu'ils la considéraient, elle? Une brillante exécutante? Cette idée la blessait un peu, mais elle la considéra avec toute la lucidité dont elle était capable. Ce qui avait fait la différence, c'était son charisme, sa capacité à remporter les élections. Et Terence l'avait déjà prévenu. L'idéal est de faire converger la vision personnelle et la vision du parti. La phrase de son frère Abel lui revint en mémoire également. Mais là, pour les élections, tes discours risquent d'être sous contrôle. Le parti se servait d'elle, probablement parce qu'il la considérait comme suffisamment malléable. Et si elle tenait à ce poste, c'était exactement ce qu'elle devait parvenir à montrer. Mais cela ne répondait pas à la question. Malléable, pourquoi? Elle soupira en supposant qu'elle le découvrirait bien assez tôt. Puis elle remisa définitivement la question et se plongea intensément pendant plus de 4 heures dans la consultation des différents dossiers qui lui avaient été laissés. Ce fut Terence qui la sortit de sa concentration profonde. La nuit était tombée, et les locaux presque déserts de la WA prenaient dans l'obscurité une dimension fantomatique. « Je vous invite à dîner pour vous changer les idées ?» demanda-t-il d'un ton enjoué. « Je suis malléable, » pensa-t-elle, et elle dit sur un ton similaire. « Pourquoi pas ?» Ils quittèrent par des escaliers mécaniques les locaux souterrains de la WA et se retrouvèrent dans la rue. La vague de chaleur qui les accueillit était suffocante, et Terence dut ôter sa veste. Le fog paraissait toujours plus épais la nuit. Il se condensait à la clarté blafarde des réverbères solaires et semblait une vapeur empoisonnée prête à envahir vos poumons. Elsée ne put s'empêcher de tousser et sentit presque instantanément ses yeux la piquer. Il lui semblait qu'elle se montrait de plus en plus allergique à l'air. Il faudrait retourner voir l'allergologue, encore une fois. « Vous êtes allergique ?» demanda Terence, prévenant. « Oui, j'ai l'impression que cela s'aggrave avec l'âge. » « De quel âge parlez-vous ?» Elle sourit dans l'obscurité, et il se permit de la prendre par le bras. « Nous n'allons pas vous infliger une longue marche. Je connais un restaurant correct par ici. » Elsée songea que le restaurant serait sûrement infesté de collègues fonctionnaires de la WA, mais elle ne souffla mot. Terence la conduisit d'un pas décidé vers un établissement discret, qui n'offrait du dehors aucun signe de son activité. « C'est un restaurant ? » demanda-t-elle incrédule, voyant qu'il n'y avait aucune queue dehors pour le passage au scan. « Oui, un restaurant pour les initiés. On ne peut connaître son existence que si l'on est parrainé. »« Vous portez-vous garant de moi ?» plaisanta-t-elle. « Absolument, » dit-il sur le même ton. « Vous allez voir, c'est un endroit tranquille, dans lequel vous ne risquez de rencontrer que des gens de votre niveau. »« Des gens de votre niveau, » releva-t-elle. Elle croyait entendre son père. Mais ce qui l'agaçait chez son père lui semblait étrangement familier et attirant chez cet homme. Il avait la désinvolture et l'entregent de sa classe. Elle n'eût pas aimé qu'il l'emmenât dans un lieu vulgaire. Le scan fut si rapide qu'ils eurent l'impression de ne pas en subir, et ils se retrouvèrent dans l'atmosphère artificiellement purifiée et climatisée d'un restaurant pour col blanc. Fauteuils de cuir, vieilles coupures de journaux papier encadrées au mur, à côté d'œuvres photographiques contemporaines, la carte était écrite à la craie sur un tableau noir. « Quelle remontée dans le temps » admira-t-elle. « J'en ai besoin pour me rendre un peu de jeunesse, » dit-il en souriant, les lèvres en coin. Ils s'assirent, et Elsée dut se moucher plusieurs fois avant que sa crise allergique ne s'estompe. Terence était moins bavard que dans les locaux administratifs. Il se laissait porter par l'ambiance, la lumière jaune, la patine du lieu, et l'observait avec bienveillance. Elle jeta un œil à la carte et ne cacha pas sa surprise. Un restaurant carnivore ? Ses yeux arrondis en disaient long. Terence, à cet instant précis, la trouva délicieuse. Jarret de veau, tripe à la mode de Caen, confit de canard. Si vous n'êtes pas habitué, je vous recommande un Chateaubriand sauce foie gras. Je comprends mieux pourquoi il n'a pas pignon sur rue, observa-t-elle. Y a-t-il d'autres plats ? Mais bien sûr, très cher, je ne veux pas vous forcer à aller contre vos convictions. Elsée planta son regard brun dans les yeux gris de son interlocuteur. Elle songea « Il teste peut-être ma malléabilité. » « Ce n'est pas tant mes convictions qu'un manque d'habitude. Je pense n'avoir jamais mangé dans un restaurant carnivore. »« Vos parents n'étaient pas férus de viande ?»« Non, mais je ne refuse jamais une expérience intéressante. Le Chateaubriand, dites-vous » Terence, qui semblait très satisfait, appela le serveur et commanda. Un Chateaubriand cuit à point pour elle, une fricassée de foie de volaille pour lui et une bouteille de Saint-Émilion. Elsée dut admettre que le fumet de viande qui flottait dans le restaurant sentait bon, mais elle n'était pas sûre de parvenir à finir son assiette. La pression sociale sur le végétarisme était devenue si forte les dernières années qu'elle n'avait jamais songé à y résister. « N'est-ce pas paradoxal pour un cadre du Parti du Développement ?» demanda-t-elle lorsque sa viande arriva. « La politique est un art du paradoxe, » dit-il avec un air fin. Elle nota intérieurement que Terence avait l'habitude de répondre aux questions directes par des aphorismes plus ou moins personnels. C'était une merveilleuse tactique de communication qui vous rendait profond sans vous forcer à prendre un parti clair. Elle se promit de l'essayer dès que possible. Le vin était exquis, lourd et capiteux. Terence redevenait bavard sous l'effet de cette chaude liqueur et il raconta plusieurs anecdotes de sa vie. Il était né et avait fait ses études et le début de sa carrière à une époque qui semblait assortie au décor de ce restaurant, une époque révolue et mystérieuse dont il semblait porter le précieux héritage. Lorsque les États-nations existaient encore, lorsque les partis politiques étaient encore indépendants, lorsque la démocratie prenait des risques. Elsée avait toujours été passionnée par cette période et ne cachait pas son intérêt pour tous les détails de la vie politique de ces années. Le Chateaubriand qui lui avait donné un haut le cœur au début fut même relégué au second plan et s'avala tout seul. Terence était né en Angleterre dans les années 2020 et il avait commencé sa vie d'adulte aux alentours de 2040, quelques années seulement avant la globalisation. Il avait connu un monde sans délicat où l'on utilisait encore massivement le pétrole, où la banquise existait encore et où les îles de la Polynésie n'étaient pas encore immergées. Cela faisait à peine 60 ans et il semblait à Elsée qu'il s'agissait d'une autre planète. Terence décrivait avec beaucoup d'humour ses débuts en politique dans le Parti des travaillistes au Royaume-Uni, puis il parlait avec enthousiasme de la globalisation, du formidable espoir que cela avait donné à la planète face à ses défis collectifs, du redémarrage de la notion de progrès depuis longtemps abandonnée. Les accidents nucléaires en série des années 2030 avaient précipité le programme international de dénucléarisation. De cet embryon de structure globale était née quelques années plus tard la WA. Les mesures les plus urgentes purent enfin être prises, développement des forces de l'ordre mondial, impôts sur les transactions et la spéculation financière, développement des énergies propres, réglementation des normes agricoles, reforestation. La WA avait essuyé ses premiers conflits armés avec la résistance de multinationales qui s'étaient dotées progressivement de moyens paramilitaires. La bataille des pesticides, qui restait dans l'histoire sous le nom de guerre des abeilles, fit une dizaine de milliers de morts. Elle marqua un coup d'arrêt à la rébellion des entreprises. Le Parti travailliste, à l'instar de tous les partis traditionnels, devint rapidement un parti international et il dut faire des alliances avec d'autres partis. Le clivage gauche-droite qui avait persisté jusqu'au XXIe siècle semblait avoir fait long feu et de nouvelles lignes politiques apparurent. Après les élections de 2054, où les multinationales hostiles à la WA avaient injecté une fortune dans la campagne d'un parti populiste et avaient frôlé la victoire, la WA avait prudemment organisé une refonte de la démocratie. Les partis dits « de gouvernement » furent bientôt les seuls à être habilités à se présenter aux élections. Ils représentaient un pluralisme certain, avec des orientations politiques et des visions du monde différentes, mais aucun ne pouvait être suspecté d'entretenir un quelconque lien avec les multinationales. Et c'était en 2055 que Terence avait rejoint le Parti du Développement, pour y accomplir la carrière brillante qu'Elsée connaissait. « Pourquoi céder la place aujourd'hui ?» demanda Elsée d'un ton faussement détaché. « Ces élections auraient pu représenter le couronnement de votre carrière. » Terence la couva de ses yeux gris, à la fois tendres et intrusifs. « Il faut savoir se retirer pour le bénéfice du parti, » dit-il d'une voix douce. « Encore un aphorisme, » songea Elsée. La question le gêne. « Vous représentez l'avenir. Vous êtes jeune. Vous avez en vous une force de conviction que je n'ai plus. Des rêves intacts. Vous êtes l'esprit de la modernité, alors que j'ai un pied dans le vieux monde. » « Flatterie, » songea Elsée, tout en souriant et en s'efforçant de rougir légèrement. « Et vous ? » demanda-t-il presque primesautier. « Racontez-moi votre histoire. »« Oh, il n'y a pas grand-chose à en dire, comme vous le savez certainement. Je suppose que mon dossier personnel et professionnel a été épluché à la loupe, et que vous connaissez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur moi. » Terence sourit. « Bien sûr. Une famille très loyale à la WA, un père receveur général des impôts globaux, une mère ingénieure en chef pour le génie civil, un frère policier, et le dernier, brillamment admis à l'Intelligence il y a quelques jours. » « Vous devez être fier de lui, » commenta Terence. « Je suis fier de ma famille, en effet. »« J'ai cru comprendre que votre mère était morte il y a quelques années. »« Oui, je suis restée très proche de mon père. »« Francis Costa. J'ai entendu dire beaucoup de bien de lui. » Elsée hocha la tête. Comparée à la biographie étourdissante de Terence Oxford, la sienne semblait tenir en quelques lignes. Elle n'en avait pas honte, simplement, cela la confortait dans la certitude que quelque chose clochait, qu'on lui confiait une mission anormalement importante pour son profil, quelque excellent qu'il fût. Et elle voulait savoir pourquoi. « Vous n'êtes pas marié, » fit observer Terence. « Avez-vous un compagnon, quelqu'un dans votre vie ?» Elsée mit un moment à répondre, un moment pendant lequel sa conscience d'être une jolie jeune femme devint aiguë. « Pourquoi cette question ? » demanda-t-elle d'un air ambigu. « Je suis affreusement indiscret, excusez-moi, mais je m'intéresse à vous. » Elsée éclata d'un petit rire. « Attention à ce que vous dites, votre phrase pourrait être mal interprétée. » « Peut-être le double sens en est-il assumé ?» Cette fois, Elsée rougit vraiment. Elle avait beau être consciemment sur la défensive, quelque chose en elle fondait sous le regard de Terence, et elle se sentait physiquement de plus en plus attirée par lui. « Je n'ai pas de petite amie. « Et je n'en veux pas pour le moment, » dit-elle pour couper court à l'intensité de l'instant qui lui paraissait dangereuse. « J'ai trop de pain sur la planche. » Délicat, en homme habitué à pousser ses pions sans jamais pénétrer en force, Terence Oxford revint à un ton amical. La soirée fut en tout point élégante, caressante et prometteuse. Sur le trajet du retour, entre deux quintes de toux, Elsée Costa trouva tout de même que la viande de bœuf que Terence lui avait fait manger, si parfaitement préparée qu'elle fût, était légèrement indigeste.